RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Eh bien, nous allons commencer par un poète. Bon, c'est normal, c'est une émission de poésie. Hein? Alors, en fait, je vous ai dit là, que j'ai viré Reine-Marie. Alors, j'ouvre les candidatures. Si une de mes auditrices veut bien prendre sa place, je suis d'accord. Et puis voilà, quoi, hein? Elle aura la priorité. Alors, vous adressez vos candidatures à RLP, hein, 102.3, ouais. Enfin, vous pouvez écouter avec ça. Bon, donc, vous regardez sur Internet, vous allez trouver l'adresse, un numéro de téléphone. Allez, alors, Émile Verhaeren. C'est un vieux poète, parce que figurez-vous que le poème que je vais vous lire, il est de 1902. Vous vous rendez compte ? 1902, hein ? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont encore vivantes, hein ? Ça s'appelle le tribun. Et tel que ces arbres cernés de rues d'écorce qu'on maintenait jadis au cœur des vieux quartiers, debout, il apparut têtu, puissant, altier, serrant, lui, dites des nœuds de force. Enfant, il a grandi sur le trottoir des villes et en faubourg lépreux, livide et convulsé, où les hommes rageaient de se sentir serviles et prisonniers depuis 1000 ans les vieux passés. Oh, son bondissement, soudain dans les mêlées, lorsque le peuple, un jour, vers les façades d'or, marcha les poings enfin dressés contre le sort, et que les coups pleuvaient et que les pierres aux colères mêlées. Vous voyez, on jetait déjà des pavés à l'époque. Bon, ils appelaient ça des pierres. Bon, mais maintenant, on appelle ça des pavés. Hein? Il paraît qu'on va faire un mai 2026. Ouais. On a loupé celui de 2025, celui de 2024, celui de 2023. Et puis, bon, vous connaissez la suite. Hein? Cassant, de hauts carreaux pleins de lumière semblaient broyés et dispersés sur le pavé. Et l'or et son verbe brusque élevé, comme un faisceau hargneux de pointes, férocement disjointes, et sa colère, et sa folie, et son amour, roulant ensemble et s'exaltant autour de chacune de ses idées, et la raison violente et dardée, faite de passion et de bouillonnement, et son geste d'orage et de grand vent, qui projetait son rêve ainsi qu'une semence ardente et rouge en des milliers de fronts vivants. Depuis, il fut le roi des superbes démences. Tiens, on me fait penser à Trump. Oh, c'est pas du tout la même époque. Hein. Ben, il n'était même pas né, Trump. Bon, hein. On ne pouvait pas prévoir, en 1902, qu'un Trump viendrait foutre le bordel sur la planète. Hein. Bon, ça c'est juste une petite aparté. Hein. Alors, depuis, bon, le roi des superbes démences, il est monté et monte encore, sait-il jusqu'où ? Son pouvoir neuf, son pouvoir fou. Il ne sait plus où il commence, il monte, et l'on croirait que le monde l'attend. Vous voyez ce que j'avais bien dit, hein ? Et pourtant, je ne l'ai pas lu avant de venir, hein ? Je vous lis vraiment là, pour la première fois ce poème, hein ? Bon, l'auteur, je le connaissais depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps, pas depuis qu'il est né, hein, parce que... Et alors, la clameur, si large est la clameur des cœurs battants à l'unisson de ses paroles souveraines, il est effroi, danger, affre, fureur et haine. Il est horde, silence. Amour et volonté, il scelle en lui toutes les violences lyriques où se trempe l'orgueil des hommes historiques dont l'œuvre est faite avec du sang d'éternité. Et le voilà, debout, carrefour du monde, où les vieux chemins d'hier croisent les grands chemins. Par où s'avanceront ceux qui viendront demain vers on ne sait quelle aube éclatante et profonde. Homme d'autant plus grand qu'il est de vierge instinct, qu'il ignore le rouge éclair dans son destin. Sans le tuer d'abord, mais en ses mains de la foudre, qu'il est l'énigme en feu que nul ne peut résoudre, et qu'il reste planté du cœur jusqu'aux pieds, en plein peuple, sang pour s'en nourrir, ou en mourir un jour, tenace et tout entier. Et qu'importe qu'après son œuvre faite, il disparaisse un soir de deuil, un soir de fête, honni et ou exalté par ceux qui l'a servi, le temps marche et l'heure est une autre, quelques autres. Et les plus jeunes n'ont point suivi jusqu'au bout sa voix et son geste d'apôtre. Il s'efface, mais ne serait-ce pour revenir, son âme était trop loin vers l'avenir et ses grèves cabrées. Pour avoir peur des tombantes marées qui succèdent toujours au flux géant, sa force, elle, est là-bas, lueur sur l'océan. Elle est pleine d'étincelles nouvelles, les vérités qui suscita de sa cervelle se font faites molles, comme moelle plutôt, moelle, la moelle, muscle et chair. Ben oui, donc si c'est muscle et chair, c'est de la moelle. Vous voyez, comme les os à moelle, voilà. Hein. Bon, c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Hein. Bon. Il a tordu la vie entière en son éclair, et désormais, elle est ployée, elle est creusée, telle que seul d'abord il l'a pensée. Alors ça s'appelle les forces tumultueuses. Ben oui, il y a de quoi. Hein. Il devrait s'en imprégner, Trump. Hein. Il pourrait, comme ça, il dirait, merde, mais c'est moi. Ah oh, ben tiens, il parlait déjà de moi en 1902. Hein. Oh là là! Remarquez, des gens comme ça, il y en a eu juste après la préhistoire, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, la preuve. Bon, voilà, donc, je vous en dirai de lui, hein, parce que j'ai trouvé une petite collection qui est sympa, qui est des Pierre Seghers éditeurs, c'est des petits livres qui sont carrés, et rien que là, j'en ai, j'ai pas tout pris, hein, parce que il n'y a pas que des poètes, hein. J'en ai sept, là, j'en ai sept. Alors, je vais vous lire, hein, il y a un malgache, il y a René Guy Cadou, il y a Bocarne, Henri Michaud, Boris Pasternak, René Guy Cadou, j'en ai deux, et là, Verhaeren. Mais j'en ai d'autres. J'ai même du Rimbaud dans cette collection. Hein, voilà. Alors, on fait un spécial Bobby Lapointe. Hein, et là, c'est Chita, voilà.
Elle a des yeux, a les beaux yeux, si noirs qu'ils en sont lumineux. Elle a des yeux, a les beaux yeux, coquin, coquin et merveilleux. Elle a des yeux, a les beaux yeux, immense et pourtant malicieux, affaire d'emmener tous les saints du bon Dieu. Ses yeux, c'est Chita la créole, elle m'obsède, elle m'affole, elle me fait du charme, elle m'affole, elle m'alarme, pourtant quand je la rencontre, je dois paraître jeune et honte, pas assez énervé, elle m'offre du café. Chita si, chita la, chita 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 boum, chita 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 la, chita 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 boum, chita si, chita la, chita 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 boum. Elle a des pieds, a les beaux pieds, à faire rêver un savetier. Elle a des pieds, a les beaux pieds, à faire rêver un financier. Elle a des pieds, a les beaux pieds, à faire rêver le monde entier. Sur son bien chacun cinq ou six jolis doigts. Deux pieds, c'est Chita la créole. Elle m'obsède, elle m'affole, elle me fait du charme. Elle m'affole, elle m'alarme, pourtant quand je la rencontre, je dois paraître jeune et honte, pas assez énervé. Elle m'offre du café. Chita si, Chita la, Chita, 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 boum. Chita si, Chita la, Chita, 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 boum. Elle a aussi une cafetière, mais alors là, quelle cafetière? Oh, par exemple, quelle cafetière? Pour une cafetière, c'est une cafetière. C'est une énorme cafetière qui la cache tout entière. Et on ne voit pas comment qu'elle est derrière. Chita, le petit qui a fait l'affiche, pour sûr, lui, il s'en fiche. T'es, on lui a dit fait une affiche pour le café. Peint une grosse cafetière et tout petit derrière, une pin-up qui la tient et le petit lapin. Chita si, chita la, chita 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 boum, chita 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 la, chita 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 boum.
Et voilà, boum, et bon. Alors là, je vais vous le lire pour la première fois. C'est la préface de mon deuxième livre de balade poétique au travers d'un pré vert qui a été tiré qu'à un seul exemplaire. Parce que j'ai décidé de ne plus éditer plusieurs livres. Un seul exemplaire devrait suffire pour passer à la radio. Je n'ai pas besoin d'en faire imprimer 100. À partir du moment où mon livre va me servir pour vous lire les poèmes. Et alors, comme c'est ma préface, je vais me la faire moi-même. Voilà. Parce que c'est ça, c'est souvent, vous faites faire la préface par quelqu'un de plus célèbre que vous. Comme ça, il vous fait mousser. Hein. Il dit que vous êtes le plus beau, le meilleur. Et alors, moi, je sais que c'est pas vrai. Hein. Et vous allez savoir pourquoi c'est pas vrai. D'abord, la face. Et après, j'irai dans le pré. Pré-face. Pour la face, quand je me regarde dans une glace, je découvre ma trogne et des virgules qui sortent de mes yeux accompagnées de points à la ligne. Et au bord des cils. Et si par hasard j'ouvre la bouche, c'est un déferlement de phrases bien ficelées, avec un tas d'alinéas parfois inutiles en période de fécondation intellectuelle. Puis le nez, joliment coloré de rouge, ouais, voire parfois du rosé, gros mais gentil avec les femmes, avec juste ce qu'il faut de petites veines violettes pour faire plus joli et attirant. Le menton, bah, il n'y en a pas. Il se cache derrière une grande barbe blanche comme neige. Puis le front, qui a l'affront de se dégarnir sans mon autorisation préalable. Je ne vous parlerai pas de mes oreilles, qu'elles ne veulent rien entendre. J'avais oublié ma prothèse dentesque, restée dans son verre à cause d'une grève revendiquant une augmentation de pastilles. Pastilles ? Oui, mais à base de virgules flottantes et d'un réveil matin. Hein ? Et c'est surtout celle du bas, qui est la plus revendicatrice, malgré les faveurs de ma part, car je la sens plus fragile, à l'odeur du gin tonic. Bonne lecture, chers amis. Voilà, alors ça, c'est l'ouverture de ce livre. Bon, je vous lirai d'autres poèmes à l'intérieur, hein, par exemple, je sais pas, bah, on va le faire tout de suite. Attendez. Ah tiens, le raconteur éclectique. Hein. Bon, vous avez compris le jeu de mots. Le compteur électrique, par exemple, hein. Il racontait que son compteur usait trop d'excentricité à tout le monde autour de lui, ce qui provoqua un volte-face parmi les biphasés et les poireaux bio. En fait, le raconteur ne racontait rien, puisqu'il fait qu'il puisse faire augmenter les watts et les cotons-tiges, sauf en cas de sourde oreille à ses comptes à rebours. C'est un raconteur, madame, reste avant tout un rat qui a un profond dégoût des frites belges à cause des radis et des radicelles trop faisandés. Votre narrateur, ou ranateur, aimait lire des histoires de ragondins en aimant se percher sur des rondins au bord de la rivière avec un gourdin pour attraper des coups de soleil. Mais comme le conteur avait un doute sur le débit de son compteur excentrique, il n'osait plus allumer les bougies de son congélateur et celles de sa télé. Il faut dire que c'était l'hiver et qu'il faisait plutôt que froid dans son trou à rats. Pourquoi avoir de l'excentricité quand il fait moins quelques degrés au-dessous d'un zéro, masqué, mais enfin confiné. C'est à ce moment crucial qu'intervient Linky, le compteur couleur sauvage, qui envahissait chaque foyer sous prétexte de faire de le bien avec du bien plus mal encore. Le raconteur ne s'en fit pas compter grâce à la chef de M. Sanguin, qui passait par là pour y paître, dans ce prévoyant juste à côté de son trou à rats. Elle dit au rat de ne pas compter sur elle, car elle n'était pas abonnée au même hébergeur d'excentricité que lui, qui ne proposait pas de nouveaux compteurs, mais des racontards et des balivernes, tant que tu en voulais. Ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un rat, sourdingue en plus, hein. Le rat tout court changea de crèmerie éclectique et s'en alla avec des racontards et des bobards, pour raconter des balivernes et des salades presque fraîches. L'histoire du raconteur ne dit toujours pas si le compteur du rat, savait lire les chiffres du compteur confiné, assez content mais ouvert. Alors, ce fut écrit le 28 janvier 2020 et ce fut revisité le 12 mai 2020. Ouais. J'aime bien des fois revenir sur un poème parce que d'un seul coup, plaf, il y a une idée qui arrive en pleine gueule. Et tu te dis, merde, ça serait quand même dommage de ne pas rajouter à ce beau poème que j'avais fait avant, ce qui fait qu'il va être encore plus beau. Ben, c'est le cas, là. C'est le cas, tous les coups. Peut-être que je n'avais pas eu l'esprit de raconter l'électricité du raconteur. Ben oui. Hein. Voilà. Alors, bon, je vous en dirai d'autres, vous inquiétez pas. Commencez pas à rouspéter comme ça, parce que, bon, allez, tiens, pour la peine, je vais vous lire un petit prévert. Hein. Et la fête continue. Oh ben ça, c'est bien vrai, ça. parce que c'est reconnaître que mon émission pour vous c'est une véritable fête, hein. Ça change un peu des mecs tordus là qui parlent en espagnol ou hein ou en occitan, hein. D'abord ils sont souvent excités tous ces gens-là. Hein. Alors, debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur, habillé en dimanche et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, qu'il n'ira pas, et que la guerre est finie, et au travail aussi, que la vie est si belle, et les filles si jolies, en titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb. Il s'arrête pile devant le patron, 3 paysans passeront et vous paieront, puis disparaît dans le soleil, sans régler ses consommations, disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. Voilà. Mmh. Alors, le fil à plomb, instrument, constitué d'un poids fixé au bout du fil et permettant de trouver la verticale. Bah, il a raison, là, pour une fois, tiens, pour une fois, il n'a pas raconté de conneries, Prévert. Hein. Ah, c'est pas vrai. Mais maintenant, je ne sais pas s'ils servent encore du fil à plomb. Ça n'a plus existé parce qu'il n'y a plus de plomb, maintenant. Et puis, il n'y a plus de fil. Voilà. Alors, est-ce que ça vous dirait un petit Victor Hugo, hein? Oh, en plus, ça s'appelle l'ogre. Ben oui, ça existe encore, les ogres. Hein. Vous me verriez, j'ai l'impression d'être un ogre. Et en face de moi, c'est pareil. Mon technicien préféré, on dirait un ogre. Un peu plus jeune, un peu plus jeune. Et vous verrez les ogres, comme ils sont câlins, qu'ils sont doux. Ah. Mesdames, ah, là, vous loupez quelque chose, hein, je peux vous le dire. Hein. Un brave ogre des bois, natif de Moscovie. En plus, vous vous rendez compte, c'est un bolchevique, alors. Était fort amoureux d'une fée. Je vous avais dit que les ogres, ils sont toujours amoureux. Et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut, au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue, se présente au palais de la fée et salue. Et s'annonce à l'huissier comme le prince au Grouski. La fée avait un fils. On ne sait pas de qui. Bon, moi, je ne sais pas. Elle était ce jour-là sortie, et quant au mioche, bel enfant blond nourri de crème et de brioche, don fait par quelque Ulysse ou à cette Calypso. Il était sous la porte et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre. Comment passer le temps quand il neige en décembre et quand on n'a personne avec qui dire un mot? L'ogre se mit alors à croquer le marmot. Ah oui, un ogre, ça bouffe les gosses. Hein. C'est bien connu. Vous voyez le nombre de gosses que j'ai bouffé, moi? Oh, incroyable. C'est très simple, pourtant. Bon, c'est allé un peu vite. Mais lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite, que de gober ainsi des mioches du prochain, le bâillement d'un ogre est frère de la faim. Quand la dame rentra, plus d'enfants, on s'informe. La fée avise l'ogre avec la bouche, sa bouche énorme. « As-tu vu, cria-t-elle, ce bel enfant que j'ai ?» Le bon ogre, naïf lui dit, « Je l'ai mangé. Ah. » Oh, or c'était maladroit, vous qui cherchez à plaire. Jugez ce que devint l'ogre devant la mer. Furieuse, elle eut soupé de son dauphin. Que l'exemple vous serve, aimez, mais soyez fin. Adorez votre belle et soyez plein d'astuces. N'allez pas lui manger comme cet ogre russe, son enfant, ou marcher sur la patte de son chien. Vous rendez compte? Du Victor Hugo, ça? On dirait presque du Prévert. Hein? Et pourtant, Prévert, il est né après. Hein? C'est ça qui est bizarre, quand même. Vous voyez, il y a des similitudes comme ça. Alors nous, les jeunes poètes comme moi, bon, je n'ai que 81 ans, donc je suis un jeune poète, qu'on pensait que Victor Hugo, maintenant, il a presque 2 siècles, presque 200 ans, donc moi, je suis jeune par rapport à lui. Nous, on s'abreuve de ces œuvres-là, et ça nous fait du bien parce que ça nous donne des idées. Tiens, d'ailleurs, quand je vais rentrer tout à l'heure, eh bien, je vais écrire un poème sur l'ogre. Mais ça ne sera pas une fée, non. Ça sera une baleine. Alors, si je reviens à la baleine, en fait, parce que Prévert, il a fait un poème sur la baleine. Vous voyez, et je vais peut-être ajouter un petit peu du Rimbaud, par exemple, hein, du Baudelaire dans mon poème. Hein. Voilà. Vous rendez compte quel beau poème ça va faire? Bon, je ne sais pas si je vous le lirai la semaine prochaine, mais je vous le lirai bientôt, ce poème-là, je vous le promets. Hein. Bon, là-dessus, allez, tiens, regarde. Toto le tigre, hein?
Toto le tigre aimé, quand il t'a la danseuse. Toto le tigre aimé, quand il t'a malheureuse. Toto le tigre aimé, quand il t'a amoureuse. Du beau docteur Zorro à la langue mantaise. Olé, quand il t'a, vas-y, n'aie pas peur. Mais il y a un tigre dans ton montant. Le beau Zorro disait, quand il t'a que t'es bête. Le beau Zorro disait, l'amour n'est qu'une fête. Ne durant qu'une nuit qu'à l'aurore on arrête. Le beau Zorro disait vraiment tu perds la tête. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur. Mais y a un tigre dans ton montant. Le tigre entendait tout et songeait impéto. Attends chacun son tour, attends mon beau Zorro. Attends, attends, attends le dernier numéro. Quand tu mettras la tête dans la gueule à Toto. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur. Mais y a un tigre dans ton montant. Sur la piste Zorro, le cœur toujours en quête. Pendant qu'il travaillait une nouvelle conquête, se pencha jusqu'au cou dans la gueule de la bête, qui d'un grand coup de croc lui fit perdre la tête. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur. Mais y a un tigre dans ton montant. Toto le tigre adore Conchita la danseuse, qui n'aime plus Zorro à la langue menteuse. Toto le tigre attend qu'elle soit amoureuse de notre beau dompteur à tête savoureuse. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur. Mais y a un tigre dans ton monteur. Olé Conchita, vas-y n'aie pas peur. Mais y a un tigre dans ton monteur. Olé.
Et voilà, hein. Alors, mettre un tigre, je me souviens que c'était un slogan, ça, à une époque, pour une marque d'essence, ouais. Mettez un tigre dans votre moteur. Parce que l'essence qu'on mettait dedans avait des superbes canines, vous voyez, comme les tigres, voilà. Hein. Allez, tiens, René-Guy Cadou. Alors, ce monsieur, j'ai deux livres de lui. Mais je ne vous lirai pas tout, parce que chaque livre fait, 150 pages, hein. Il me faudrait quoi ? Il me faudrait 3 ans. Et alors, c'est marrant parce que tous les poètes ont utilisé le mot poésie. Et là, c'est art poétique. Sauf moi. Moi, je n'ai jamais mis dans mon titre poétique parce que je suis déjà poète. Pourquoi je vais le signaler en plus ? Hein ? Bon. Quand ce sera la nuit, et toi, tout seul, dans ta vieille limousine, quelque part sur une route de forêt, quand il sera nuit noire, « Oh, mon poète, aie garde d'allumer tes phares. Appuie de toutes tes forces sur le champignon de la beauté, sans rien savoir et sans souci du flot battant ton pare-brise. Enfonce-toi comme un noyé dans la nuit rageuse et grise. Tu as perdu la direction, le nord, l'étoile, des feux de position, et tu sens soudain un grand choc. Tu es couché tout près de toi, dans la verdure. » Tu es comme 1000 petits trous de serrure qui regardent dans la tête éclatée, dans ta tête éclatée, les éléments épars de sa beauté. Et qui viendrait te chercher là, quand tu disposes de toi-même secrètement pour un destin qui ne peut plus te laisser seul ? N'appelle pas, mais entends ce cortège immémorable de pas. Voilà, 1948. Voilà, 1948. Putain, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans quand il a écrit ce poème. C'est vraiment un hasard, hein. Oh, dis donc, je suis tout ému. Oh, 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 quelle drôle d'histoire. Hein. Allez, tiens. Alors, j'ai un livre de poésie que ce n'est que sur l'arbre. Alors, j'en ai un autre pareil dans la même collection, c'est avec son Folio Junior. C'est sur la mer. Mais là, on va prendre l'arbre. Et alors, donc naturellement, il y a plein de poètes différents. Et je tombe sur Victor Hugo, encore une fois. Hein. Alors, il adresse un poème à Albert Dürer. Dürer, vous savez, c'était un artiste peintre très, 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 très célèbre à l'époque. Mais même encore maintenant, moi, des fois, je regarde ces tableaux sur Internet, c'est superbe. Je crois même que j'ai un livre sur lui, parce que j'ai beaucoup de livres de poètes, de peintres. Hein. Et mon plus beau livre, 15 kilos de génie. Quand il est ouvert, il fait plus d'un mètre de large. Et vous savez de qui ? Léonard de Vinci, mon peintre préféré, le peintre qui savait tout faire. Il a même fait des machines de guerre, ce salaud. Par contre, il a fait les systèmes hydrauliques dans les rivières, c'est lui qui l'a inventé. Hein. C'est pas Sarkozy hein, qui l'a inventé, c'est Léonard de Vinci. Ouais, hein. Et la Joconde, vous vous rendez compte ? Il a fait la Joconde, hein, et d'une faconde incroyable. Oh, non mais c'est mon préféré. Et j'espère que vous aussi, parce que si vous le connaissez pas, passez sur Internet et regardez-le. Alors j'ai juste le temps de vous lire un poème. Et encore, oui. Bon, allez, on va essayer. Albert Durer. Bon. Dans les vieilles forêts où la sève à grands flots court de fûts noirs de l'aulne au tronc blanc des bouleaux. Bien des fois, n'est-ce pas à travers la clairière, pâle, effaré, n'osant regarder en arrière, tu t'es hâté, tremblant, et d'un pas convulsif. Ô mon maître Albert Durer, ô vieux peintre pensif, on devine, devant tes tableaux qu'on vénère, que dans les noirs taillis, ton œil visionnaire voyait distinctement de par l'ombre recouvert la faune aux doigts palmés, le sylvain aux yeux verts, Pan qui revêt de fleurs l'antre et que tu recueillais, et l'antique dryade aux mains pleines de feuilles. Une forêt pour toi, c'est un monstre hideux. Le songe et le réel s'y mêlent tous les deux. Là se penchent rêveurs les vieux pins, les grandes ormes, dont les rameaux tordus font cent coudes difformes. Et dans ce groupe sombre agité par le vent, rien n'est tout à fait mort, ni tout à fait vivant. Le cresson boit, l'eau court, les frênes sur les pentes, sous la broussaille horrible et les ronces grimpantes, contractent lentement leurs pieds noueux et noirs. Les fleurs au cou de cygne ont des lacs pour miroir. Et pour vous qui passez et l'avez réveillé, mainte chimère étrange à la gorge écaillée. D'un arbre, entre ses doigts serrant de larges nœuds, du fond d'un autre obscur, fixe un œil lumineux. Ô végétation, esprit, matière, force, couverte de peau rude et de vivante écorce. C'est pas beau ça, hein? Ah ouais, c'est beau. Bon, ben je crois que je vais terminer là-dessus. Bon alors, mesdames, hein, si vous êtes candidate à prendre la place de cette femme qui peut parler alors que les autres ne peuvent pas, hein. Vous savez, c'est une place de reine, hein. Bon, alors j'attends la première, hein. Peut-être à la prochaine émission. D'accord. Allez, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée.